L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5 pile au FM 93. Bienvenue dans cette amorce. On est jeudi, le 21 novembre 2019. Comment allez-vous? On a droit à du temps assez confortable, même chaud comparativement à la semaine dernière. C'est de la slush maintenant, là. Je me suis rendu compte. Hier, en allant m'entraîner, moi, je le fais encore un peu parce que c'est encore tolérable, là, mais de pas se changer au vestiaire, mais plutôt se changer avant de partir de la maison. Fait que tu pars en short avec tes souliers d'entraînement. Sauf que le problème, c'est que dans certains parkings à l'extérieur, il y a bien de la slush présentement parce que les températures sont montées un petit peu au-dessus du point de congélation. Puis là, t'as un mélange d'eau, de boîtes de neige. Fait que je me suis trempé les pieds bien comme il faut à cause de ces conditions-là présentement. Mais disons que côté température, on en profite quand même parce que c'est sûr que le mercure va redescendre assez rapidement et même dès la semaine prochaine un peu. Par contre, d'ici là, on va avoir droit à des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Aujourd'hui, c'est une température normale, un maximum de 1 degré, alternance de soleil et de nuages pour toute la journée. Demain, vendredi, c'est la journée la plus chaude de la semaine. Ça fait depuis lundi qu'on augmente pratiquement d'un degré par jour la température qui est prévue. Donc, pour demain, maximum de 6 degrés. C'est pas mal au-dessus des normales parce que d'habitude, c'est 1 degré la normale pour le maximum. De la pluie qui est prévue, on dit qu'il y a aussi des risques de neige également sur le secteur nord, mais pour le reste, ça va être de la pluie, risque de pluie verglaçante aussi. Samedi, c'est moins 4 avec du soleil par contre, donc une belle journée. Dimanche, 1 degré, alternance de soleil et de nuages. Et en ce moment, on a moins 1 degré à Québec. Alors, pour ce qui est de la météo, on va profiter de ces températures-là pendant qu'elles passent. Dans l'actualité, les choses à savoir aujourd'hui, ben, c'est à la une de tous les journaux, sans grande surprise, c'est la composition du cabinet de Justin Trudeau, cabinet de ce gouvernement libéral minoritaire dont on a appris la composition complète hier. C'est sûr que ça circulait déjà un peu. On avait déjà certaines informations concernant certains députés qui allaient obtenir un poste de ministre, certains qui allaient prendre du galon aussi, notamment chez les députés élus au Québec. Eh bien, la constante à retirer de ça, c'est que une bonne partie des ministres provient du Québec, presque un tiers, parce que c'est un cabinet de 36 ministres et il y a 10 ministres québécois. Et les deux tiers, carrément, proviennent du Québec et de l'Ontario. Ce qui fait en sorte que quand vous regardez la composition du Conseil des ministres ce matin, ben il y a un trou béant. Et c'est dans l'Ouest canadien, parce que les seuls, à part, ben évidemment, Colombie-Britannique, mais je le mets à part, mais je parle des prairies, surtout Alberta, Saskatchewan, ben les libéraux n'ont pas réussi à faire élire un seul député dans ces provinces-là. Donc, il n'y a aucun ministre qui provient d'Alberta ou Saskatchewan. Il y en a un qui provient du Manitoba, Dan Vandal, qui devient ministre des Affaires du Nord. Mais on voit vraiment que dans l'Est, tout va bien. Il y a pas mal de ministres des provinces de l'Atlantique, des provinces également du Québec et de l'Ontario. Mais on n'a pas été capable d'aller chercher un ministre qui provient des provinces des prairies. Alors, je vais vous détailler le Conseil des ministres, en tout cas du côté des Québécois. Là, on passera pas les 36 en revue. Mais voici les députés québécois qui entrent au Conseil des ministres de Justin Trudeau. Alors, il y a Marie-Claude Bibeau qui devient ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. François-Philippe Champagne qui devient ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Duclos hérite du Conseil du Trésor. Marc Garneau reste ministre des Transports, il l'était déjà. Stephen Guilbeault, la recrue, devient ministre du Patrimoine canadien. Mélanie Joly gagne un peu de galon, elle garde les langues officielles, mais devient ministre du Développement économique. David Lametti devient ministre de la Justice et procureur général du Canada. Diane Le Boutillier devient ministre du Revenu national. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones. Et Pablo Rodriguez, leader parlementaire et également lieutenant du Québec. On va vous faire entendre quelques réactions hier en lien avec ces nominations-là. D'abord, je vous ai parlé de Stephen Guilbeault, l'environnementaliste, qui devait avoir quand même un petit espoir d'obtenir l'environnement. Bon, c'est plutôt le portefeuille du patrimoine canadien qu'il a obtenu. Ben, lui, du qui n'est pas amer et qui est heureux de cette décision-là.
On a beaucoup fait plusieurs analogies au hockey au cours des derniers jours sur là où j'étais, où je n'étais pas. Alors, moi, je suis un joueur d'équipe. Comme on le sait très bien, quand on est dans une équipe, ben, les discussions se font au vestiaire. Et quand on arrive sur la glace, ben, on joue ensemble.
Le premier ministre Justin Trudeau s'est exprimé aussi sur la nomination de Stephen Guilbeault comme ministre du patrimoine canadien. Il a dit que c'est pas là nécessairement une volonté de le tasser de l'environnement ou des questions environnementales et qu'il allait pouvoir participer un peu comme tout le monde au sein du cabinet à ces décisions-là.
Tous les membres de notre cabinet vont travailler très fort sur des dossiers aussi importants que les changements climatiques. Je suis très, très content d'avoir plusieurs experts, dont M. Guilbeault, sur cet enjeu-là au sein de notre cabinet.
Souvenez-vous, au cours du premier mandat de Justin Trudeau, il n'y avait pas de ministre qui occupait le poste de lieutenant du Québec, donc de représentant gouvernemental du Québec, qui est une fonction qui était réclamée par plusieurs pour démontrer un intérêt envers le Québec de la part de Justin Trudeau. Ben là, il a décidé d'y aller de l'avant avec Pablo Rodriguez, qui est aussi leader parlementaire. Et Justin Trudeau a expliqué pourquoi il a nommé un lieutenant du Québec cette fois-ci.
C'est important d'écouter les gens et les Québécois ont clairement dit que même avec un nombre record depuis bien des années de Québécois au sein d'un parti du gouvernement avec 40 députés, ils voulaient encore avoir une voix plus forte.
Bon, évidemment, du côté de l'opposition, on n'est pas très heureux de la composition du Conseil des ministres. On s'y oppose. On a différentes critiques. Là, je vous résume un peu. Notamment chez les conservateurs, Andrew Scheer a dit, ben là, il a nommé Stephen Guilbeault comme dans un poste de ministre, alors qu'on sait très bien que c'est un environnementaliste qui est contre l'énergie pétrolière, notamment de l'Ouest. Ça envoie un message clair, ça, hein, qu'on nomme un environnementaliste, même si c'est pas l'environnement et puis qui est contre le pétrole. Ben, c'est assez évident dans quelle direction ce gouvernement-là s'enligne. Et il y a également du côté du Bloc québécois. Et c'est un peu joué de cette façon-là du côté du Journal de Québec. Ça m'a fait sourire un peu ce matin, là. On est assez éditorial dans la façon dont on joue la une. La bataille du Québec se prépare avec des Québécois dans des postes cruciaux pour contrer le Bloc québécois. Bon, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, s'est exprimé notamment sur la nomination du lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez. Selon lui, c'est un signe de confrontation.
L'expérience du personnage ne fait pas défaut. Mais le tempérament du personnage et le fait qu'il est une incarnation du multiculturalisme canadien, qui a eu des mots très durs à l'endroit de ceux qui ne sont pas multiculturalistes dans le Parlement, est de nature à susciter des tensions.
Alors, on verra de quelle manière Justin Trudeau va négocier. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est la manière dont il va réussir à faire passer les différents projets de loi, les différentes décisions, en s'alliant avec un parti à chaque fois, parce que en contexte minoritaire, nécessairement, il va avoir besoin de l'appui de quelqu'un à chaque fois, que ce soit le NPD, les conservateurs ou le Bloc québécois. Alors, c'était ça pour la composition du cabinet Trudeau à Ottawa. On passe à une nouvelle concernant la jeunesse, la DPJ. Hier, c'était la Journée internationale des droits de l'enfant. Et la vérificatrice générale du Québec en a profité pour publier un rapport important, un rapport assez épais concernant des statistiques troublantes par rapport à la DPJ puis au délai d'intervention à l'endroit des enfants. D'abord, premier chiffre qui est intéressant, normalement, lorsqu'il y a un appel qui est porté à la DPJ concernant un enfant, le délai devrait être de 3 jours ouvrables. Donc, quelqu'un signale un cas de maltraitance, par exemple, normalement, on devrait répondre à ce cas-là puis intervenir dans 3 jours ouvrables. Or, quand on regarde, dans la région de Québec, ça prend 12 jours avant que quelqu'un réagisse finalement puis intervienne sur le cas qui a été rapporté. Et puis, ça varie énormément. En Montérégie, c'est 41 jours. Donc, dans certaines régions, ça prend un délai épouvantable avant que la DPJ soit en mesure de passer à l'action et d'intervenir. Mais de toute façon, même s'il y a intervention suite au premier signalement, ça prend quand même énormément de temps avant qu'il se passe quelque chose de concret. En moyenne, dans la région de Québec, c'est 202 jours. Avant qu'on applique des mesures du côté de la DPJ. 202 jours, ça veut dire, ça c'est dans le soleil, ce petit calcul-là, mais le 1er janvier, par exemple, un enfant est signalé à la DPJ, ça va prendre jusqu'au 21 juillet avant qu'il se passe quelque chose concrètement. Imaginez le temps que ça peut prendre. C'est parce qu'il y a des attentes épouvantables dans les différentes étapes bureaucratiques avant de se rendre à l'application des mesures. On explique, mettons, pour la capitale nationale, là, c'est 202 jours d'attente qui cumulent 5 étapes à suivre. Alors d'abord, la réception au traitement du signalement, je vous en ai parlé, c'est 12 jours. Après ça, il y a l'attente avant l'évaluation. Donc, entre la réception et le traitement, puis l'évaluation, il y a 11 jours. L'évaluation en tant que telle peut prendre jusqu'à 65 jours. L'orientation, 98 jours. Et l'attente avant l'application des mesures, 5 jours. Donc, on peut s'entendre que avant que quelque chose se passe, il peut y avoir une détérioration pour l'enfant. C'est assez évident. Et d'ailleurs, la vérificatrice générale, Mme Leclerc, Mme Guylaine Leclerc, s'est exprimée un peu là-dessus puis a expliqué que plus les délais augmentent, plus les risques augmentent pour l'enfant.
Il y a de plus en plus de signalements au Québec. La dernière année qu'on a vérifié, c'était 106 000 signalements. Ça veut dire plus de 280 signalements par jour. Donc, c'est important. Donc, c'est pourquoi c'est important que le bon geste soit fait au bon moment dans les délais qui sont nécessaires.
Puis elle explique aussi que dans l'évaluation, des fois, on sous-estime certains facteurs de risque qui peuvent être assez importants concernant le bien-être de l'enfant, notamment la récurrence des signalements. C'est sûr que si ça fait 3, 4, 5, puis 10 fois qu'un enfant est signalé, ça se peut que ça soit un petit peu plus urgent d'intervenir. Et on a des statistiques troublantes en lien avec ça aussi. Dans la région de Québec, 9,1% des enfants signalés, ça fait 10 fois depuis leur naissance qu'ils l'ont été. Donc, des cas récurrents qui reviennent constamment. La DPJ reçoit toujours des signalements concernant leur cas. Et ça fait en sorte que, bien évidemment, leur situation peut se détériorer assez rapidement. Donc, ça prend des interventions plus rapides. Et là, on est dans le contexte de la commission Laurent sur les droits de l'enfant, la protection de la jeunesse, un peu dans la foulée du drame qui s'est déroulé à Grande-Bec, la petite fillette de 7 ans qui a été martyrisée. Alors, c'est le moment peut-être de faire état de cette situation-là et de voir de quelle manière on peut intervenir plus rapidement pour s'assurer que les enfants soient sortis des milieux nocifs pour leur développement le plus rapidement possible. De la DPJ, on passe au monde des médias. Je vous en ai parlé un petit peu cette semaine de ce qui se tramait concernant le groupe Capital Média, les anciens journaux du groupe Capital Média, Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, Le Quotidien notamment, là, qui vont devenir une coopérative. C'était ce qui était avancé. Le gouvernement avait annoncé que c'était l'option qui était retenue. Eh bien, c'est vraiment le cas parce que également du côté de PricewaterhouseCoopers, l'associé qui était responsable de la restructuration a affirmé qu'effectivement, ce serait l'option qui serait retenue. Il y avait pas mal deux projets sur la table. Il y avait une reprise du côté de Métro Média, l'entreprise Métro Média, qui a déjà plusieurs journaux. Et il y avait cette association au sein d'une coopérative de la part des employés. Donc, les employés qui deviennent propriétaires des journaux. C'est cette option-là qui a été retenue parce que c'était la plus rapide à mettre en œuvre. C'est la façon qu'on l'a expliqué un petit peu. Mais c'est sûr que ça se fera pas sans heurts, cette transition-là. Bon, d'abord, on rachète les quotidiens pour la somme symbolique $1 parce que vous comprenez que c'est en faillite, là. Et ça comprend plusieurs modifications. D'abord, au régime salarial, au régime de retraite. On va abolir le régime de retraite. Il va y avoir des modifications aux conventions collectives. Et ça inclut aussi une cinquantaine de mises à pied. Donc, c'est des gens qui vont perdre leur emploi quand même, mais ça, on s'y attendait de toute façon. Puis, on indiquait que le projet de Métro Média était à peu près équivalent aussi. C'était des mises à pied qui étaient prévues également, là, 15% à peu près des employés qui perdaient leur emploi suite à une reprise de Métro Média. Donc, c'est à peu près la même chose pour ce qui est de la coopérative. Évidemment, ça va demander un fonds qui va être mis en place pour payer les réclamations, $250 000. Il va falloir qu'il y ait des retenues sur les paies des employés aussi. Pour qu'il y ait une contribution à la coopérative. Sauf que c'est pas encore complété. Il faut comprendre que là, ça a été accepté dans les grandes lignes. Sauf qu'il faut attendre jusqu'à vendredi pour savoir si le tribunal va accepter l'offre des employés. Parce que, évidemment, il faut voir s'il y a possibilité aussi de s'arranger avec les créanciers. Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que les journaux pourraient fonctionner jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la mi-janvier à peu près, mais on est vraiment au bout du rouleau. On est au bout des ressources financières présentement. Donc, il va falloir que la transition se fasse assez rapidement. Et évidemment, ben vous comprenez que il y avait des retraités qui étaient présents aussi, qui trouvent ça très difficile de réaliser, qui risquent d'avoir une différence dans leur qualité de vie par rapport à ce qu'ils s'attendaient de recevoir pendant leur retraite. Là, évidemment, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y aurait moyen de garder un peu d'argent pour eux autres, compte tenu du fait qu'ils ont évolué avec un régime différent? Ben, c'est peu probable parce que vraiment, présentement, là, il y a pas grand chose qui reste au sein de ces journaux-là. On va tenter tant bien que mal de les faire fonctionner. Mais on est vraiment en situation d'urgence, là. Il va vraiment falloir qu'on soit en mesure de faire rouler ces journaux-là en diminuant les coûts. Et ça passe malheureusement pour les retraités, notamment par l'abolition du régime de retraite. Mais, dans un sens, la bonne nouvelle, c'est que l'information régionale va survivre. Ça, c'était la crainte de beaucoup de personnes. Si on perdait des journaux à certains endroits, où est-ce que c'est le seul journal qui est publié, ben là, c'est l'information régionale qui aurait pris tout un coup. Là, dans un certain sens, on en assure la survivance pour au moins quelques temps. Et si c'est bien géré, si on parvient à faire rouler ça de façon coopérative, ben on verra les journaux de Le Soleil, Le Quotidien et ces autres journaux-là survivre encore longtemps, du moins souhaitons-le. 5h14, courte pause, on discute de sport au retour.
FM 93, pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Ça va être quoi la grosse histoire dans les prochains mois, prochaines années, man? Pour moi, c'est clair. C'est le Wexit. C'est les Albertains qui veulent se séparer. Ils se font contester leur pétrole à mort par les gauchistes québécois notamment, puis même Legault, mais ils veulent rien savoir, le pipeline, puis tout. Je regarde ça à frette, là. Ils ont plus de raisons de se séparer que nous autres dans le temps.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30, FM 93. Ça me parle.
Attention, je vais vous parler de chauffage, de notoriété et de gros rabais. Je vous parle de JMR, une entreprise qui œuvre en climatisation chauffage depuis 40 ans. En ce moment, procurez-vous une thermopompe dans les meilleures marques comme Amana ou Daikin et écoutez ça. Elle sera installée pour l'hiver et vous commencerez à payer juste en avril prochain. En plus, vous profiterez d'un vrai financement de 60 mois sans intérêt. Et même pas besoin de vous déplacer. Appelez JMR et ils viendront regarder vos besoins sur place. Pour un temps limité, visitez jmair.ca.
Vous songez à acheter une maison? AlexandreWallet.com.
Avant de visiter, AlexandreWallet.com.
Avec les nouvelles règles hypothécaires en vigueur, il est primordial d'être bien conseillé. AlexandreWallet.com vous explique en détail le nouveau programme gouvernemental pour la mise de fonds. Achat zéro comptant, remise en argent.
Il négocie votre achat, vous obtient le plus bas taux d'intérêt et paye votre notaire.
Avant de visiter, soyez bien informé. AlexandreWallet.com.
Il s'occupe de tout et paye votre notaire.
AlexandreWallet.com.
La vitre de votre iPhone est cassée. Votre sel marche plus? Passez chez Télution. Ils changent les vitres, batteries, connecteurs, souvent en 15 minutes et ils ont maintenant une section de cellulaires usagés. Télution sur Saint-Sacrement, Saint-Jean, à Saint-Romuald et maintenant à Charlebourg. Télution.com.
Découvrez Cirque du Soleil, Axel. Un nouveau spectacle sur glace, comme vous n'en avez jamais vu. Avec du patinage sur glace spectaculaire, de la haute voltige et des acrobaties pour toute la famille. Cirque du Soleil, Axel. Au Centre Vidéotron du 12 au 15 décembre. Billets au cirquedusoleil.com. Axel est présenté par Placements Mondiaux Sun Life et remercie son partenaire, Mastercard.
Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe.
Imaginez ceci pendant 24 heures. C'est ce que ressentent les gens atteints de douleurs chroniques sans accès à un traitement adapté. Bien gérés et bien administrés, les opioïdes peuvent aider. Renseignez-vous à douleurschronique.org.
Aïe aïe.
Des profondeurs de la forêt boréale sont nés des restaurants qui rendent hommage à nos racines. Et ce n'est pas une légende. Ces restaurants existent vraiment. La légende Restaurant Boréal est l'origine bistrot organique. Grâce au FM 93, vous pourriez retourner aux sources et vivre une expérience sensorielle extraordinaire. Inscrivez-vous sur fm93.com. Vous pourriez gagner une soirée pour 10 personnes au restaurant Légende ou au bistrot L'Origine. Une collaboration du groupe La Tanière et du FM 93.
Ce samedi, 13h, Promusuel Assurance présente la 55e Coupe Vanier. Montréal affronte Calgary au Stade TELUS Université Laval. Gratuit pour les 12 ans et moins, admission générale à partir de 22$. Réservation 656-FOOT ou coupevanier.com.
Et si magasiner sur les grands sites d'achat Internet,
mes écouteurs,
ma tuque, les jeans,
devenaient la seule option?
Pas les bottes pour toute la famille.
Un manteau.
Un ordi.
Nos commerces locaux, on en a besoin. Et si on veut continuer de pouvoir compter sur eux, ils doivent pouvoir compter sur nous. Cette année, pour nos achats des fêtes, achetons local.
Un casse-tête pour les tempêtes.
Mon ordi. Puis surtout, les conseils pour acheter le bon.
Comme ça, on pourra acheter local encore longtemps.
Méga moto.
Mes souliers rouges.
Un message du FM 93.
L'amorce avec Jean-Simon Buy. Lundi au vendredi, 5h. Au FM 93.
5h18 au FM 93. Bienvenue dans l'amorce. On est jeudi, le 21 novembre 2019. Et on a droit à des températures de type slush printanière cette semaine après les températures du mois de janvier de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on prévoit pour aujourd'hui? 1 degré avec alternance de soleil et de nuages. Demain, journée pluvieuse avec 6 degrés comme maximum, bien au-dessus des normales de saison. 5 degrés pour être plus exact. C'est 1 degré le maximum habituellement. De la pluie qui est prévue. Neige possible sur le secteur nord, tout dépendant la direction du mercure demain. Et possibilité de pluie verglaçante également au cours de la nuit et de la matinée vendredi. Pour samedi, c'est du soleil, maximum de moins 4. Dimanche, on reste ensoleillé. Alternance de soleil et de nuages avec 1 degré comme maximum. Et présentement, c'est 1 degré à Québec. Willy Boivin, bon matin.
Bon matin, Jean-Simon.
C'est un coup de tonnerre dans la Ligue nationale hier qui a retenti en fin d'après-midi alors que le coach des Maple Leafs, Mike Babcock, a été congédié.
Congédié. Dehors Mike Babcock, l'entraîneur le mieux payé de la Ligue nationale. En plus de ça, Jean-Simon, il y a 4 ans, on l'avait signé pour 8 ans, 50 millions de dollars la valeur de son contrat, 6,25 millions par année. C'est pas un joueur de centre, là. C'est pas un ailier, c'est pas un gardien de but, c'est un entraîneur. Les Maple Leafs ne connaissent pas un bon début de saison.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ah ouais, puis on a perdu nos 6 derniers matchs. Pis sérieux, les défaites, c'est une affaire. Puis même, on est encore en début de saison. Lightning n'a pas un gros début de saison non plus. Mais surtout, c'est la façon que les joueurs jouaient sur la glace. Quand les gars jouent sans âme, sans détermination, c'est le message qu'on envoie un peu au directeur général pour dire, regarde, le message de l'entraîneur ne passe plus. Puis on veut avoir un nouveau discours dans le vestiaire. Donc je pense que les Leafs ont pris la bonne décision. C'est une bombe, mais c'est pas si surprenant que ça. Alors finalement, ben c'est Sheldon Keefe qui arrive avec les Leafs. C'est l'entraîneur qui était dans la Ligue américaine des Marlies. Et surtout, c'est un gars qui a une connexion avec Cal Dubus, le directeur général des Leafs, depuis longtemps.
Okay.
Les deux étaient ensemble dans le junior. Et Mike Babcock était déjà là quand Dubus est arrivé. Donc souvent, on dit que c'est le directeur général qui choisit son entraîneur. Ça a pas été le cas dans ce cas présent, mais donc là, c'est une question de temps avant qu'il devienne l'homme de la situation.
À quel point, dis-moi, Will, un changement d'entraîneur va faire en sorte que des gars qui donnent pas leur 110% à chaque soir vont changer leur fusil d'épaule tout à coup, dire « Ah oui, là, pour ce gars-là, on va se donner. » Ils se donnaient pas Mike Babcock, qui est un entraîneur qui était parmi les plus réputés.
Ouais, non, c'est une très bonne question. Puis je l'ai posé à Martin Biron hier dans l'avant-match. Il réagissait justement sur le congédiement de Mike Babcock. Il l'a d'ailleurs déjà eu comme entraîneur, mais il m'a dit « C'est la nature humaine. » C'est que les gars étaient tannés d'avoir le même discours dans le vestiaire, puis juste d'avoir une voix différente, quelqu'un de différent à l'entraînement, ça peut changer l'ambiance, avoir une nouvelle vibe plaisante, puis ça a l'air de rien, mais c'est juste que Babcock, qui est un entraîneur aussi de la vieille école, on va le dire, je suis pas sûr que ça fonctionnait avec le jeune noyau des Leafs. Tandis que le nouveau Keefe est un entraîneur 2.0, qui fonctionne très bien avec les jeunes joueurs. Donc simplement d'avoir un discours différent, je pense que ça peut avoir un impact, et malheureusement, dans le monde du sport et au hockey, c'est toujours l'entraîneur qui écope quand on n'a pas de résultat.
Un mot sur le CH. Will, encore une défaite un peu décevante hier.
Ben oui, 2-1 en prolongation contre les Sénateurs. Troisième défaite de suite pour le Canadien. Puis ça, ces petits points-là qu'on perd, je me répète, là, ça va nous manquer en fin de saison. C'est tellement serré le classement. On a manqué de finition hier. Encore une fois, Carey Price a été moyen. On peut-tu se le dire? On dirait que c'était interdit de dire ça. Ah ouais, on n'a pas assez de punch offensif pour gagner des matchs de hockey. Ouais, mais Carey Price hier, il a pas été bon. Il a juste pas été bon. Mais on a manqué de finition, et ça, c'est le manque de talent. Un soir donné, le travail peut te permettre de gagner, mais un soir donné, quand il y a rien qui fonctionne, si t'as un Sidney Crosby, un David Pastrnak dans ton équipe, ben, tu peux gagner le match. Mais hier, c'est pas arrivé pour le Canadien.
Drôle d'équipe cette année, là, qui réussit à battre des puissances comme les Bruins, les Blues à l'occasion, puis se ramasse à perdre contre les Sénateurs.
Ouais,
là,
c'est souvent
spécial,
ça, le Canadien.
C'est vraiment spécial.
Ils sont bons contre les bonnes équipes, mais pas bons contre les mauvaises équipes.
Merci beaucoup, Will. À tout à l'heure. Vous savez, souvent, on rit un peu de photos, de vidéos floues qu'on retrouve sur YouTube, qui montrent à regarder si telle personne est pas humaine ou il se passe telle affaire dans le background, il y a une conspiration en arrière de ça. Puis souvent, on tourne ça au ridicule en disant, bon, mais c'est des gens qui veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent voir. Sauf que, quand ça provient d'un scientifique d'une université américaine, qu'on se retrouve avec quelque chose digne d'un roman, d'une série de science-fiction, mais que c'est publié dans une étude très, très sérieuse, ben on a tendance à peut-être moins tourner ça en ridicule. Hein? Et puis, c'est exactement ce qu'on a, parce que bon, depuis très, très longtemps, il y a toujours eu une espèce de fascination des êtres humains pour les extraterrestres, la vie dans l'espace, et notamment sur la planète rouge, Mars. Ça fait un bon bout de temps qu'on sait, à peu près, parce qu'il y a eu des sondes qui ont été déployées sur la planète, puis qu'il n'y a pas vraiment de vie sur Mars. Puis s'il y en a, ce qu'on va retrouver, c'est des organismes unicellulaires, des bactéries qui datent de milliers d'années parce que vous n'avez pas les conditions nécessaires pour avoir de la vie sur Mars, en théorie. Sauf que là, il y a un entomologiste de l'Université d'Ohio qui a publié un communiqué extrêmement sérieux dans lequel il dit qu'il y a des photos de la sonde Curiosity qui a pris beaucoup de photos sur Mars qui représentent des êtres vivants présentement, là, donc des insectes, des reptiles qui se promèneraient sur la surface de Mars en ce moment. Sauf que les photos, on va s'entendre, c'est des photos extrêmement floues, là. Ils essaient de démontrer qu'on est capable de voir la tête d'un reptile ou la tête d'un insecte à partir de clichés qui ont été pris par un rover sur la planète rouge. Sauf que dans les faits, la plupart des experts disent, ben là, ils se basent seulement sur des photos. Ils disent pas pour réduire son expérience en entomologie à sa capacité de décrire un insecte ou pas, mais c'est parce que sur Mars, il n'y a pas des conditions très, 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 très accueillantes, là. Il n'y a pas d'eau. Les écarts de température, c'est à peu près 100 degrés Celsius entre le jour puis la nuit. Puis il n'y a pas vraiment d'atmosphère, donc d'oxygène. Alors, il faudrait que ce soit des insectes et des reptiles très, très résistants pour habiter dans un lieu aussi inhospitalier. Là, la plupart des experts disent que c'est probablement un cas de paréidolie. C'est quoi ça, la paréidolie? C'est notre une espèce de propension, les êtres humains, à voir ce qu'on veut voir dans quelque chose. Vous regardez un nuage dans le ciel, vous dites « Ah oui, c'est un lapin, c'est un lion, c'est la face de ma blonde, peu importe. » Ben en fait, c'est aucunement ça, c'est juste que au lieu de voir un nuage avec des formes quelconques, ben, on essaie de voir ce qu'on veut bien voir. On essaie de voir un symbole à travers quelque chose. Mais c'est quand même spécial d'avoir un communiqué qui provient de l'Université de l'Ohio en disant très, très textuellement, il y a encore de la vie sur Mars, avec un paquet de photos floues pour accompagner ça. Alors, malheureusement, pour ceux qui aimeraient bien croire aux extraterrestres et de la vie sur Mars, ben, c'est quand même relativement peu probable. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans la Morse. On se reparle demain pour la dernière de la semaine à 5h. Et dans quelques instants, c'est Bouchard en parle. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.